Libre Radio, www.libradio.org, la radio qui n'en termine jamais. Voilà, donc nous sommes toujours en direct pour la troisième et dernière partie de cette émission depuis la Bibliothèque du Peuple au Paquis, au Gratte, juste derrière la gare, face Pavillon Bleu, précisément à l'adresse 6 rue des Amis. Donc pour celles et ceux qui graviteraient autour de l'espace, eh bien cette émission est en direct et en public. Donc tu peux venir t'entretenir avec nos invités, les interroger, pourquoi pas ici. Et puis si tu ne le fais pas dans la vraie vie, tu peux le faire par contumace à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors par la page Facebook de l'émission. Tu te logues dans Facebook, tu notes la comète à la banane. Alors, cette troisième partie d'émission, tu le sais, est consacrée donc au film documentaire Le Seuil, sortir d'une unité psychiatrique. Nous sommes donc en compagnie de Cornelia Hummel, bienvenue à toi, Cornelia.
Merci.
Et de Franck Preisberg,
ah, j'étais sûr et je me suis entraîné.
Oui, ça va pas être facile. Mais... Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes respectivement le réalisateur,
oui,
et la productrice de ce film, de cette aventure.
Oui.
Je me trompe pas, hein, c'est ça. Alors peut-être voudrais-tu, Franck, commencer en fixant le cadre général de ce film. Il faut dire que c'est un film documentaire, que ça s'appelle Le Seuil, que c'est l'idée, on l'a annoncé au sommaire de cette émission, le moment de la sortie, ce moment délicat entre l'intérieur et l'extérieur d'une institution psychiatrique, puisqu'il s'agit de Belle Idée, qui est un hôpital psychiatrique ici à Genève, et que c'est en même temps, justement, par analogie, un peu l'intérieur de soi et l'extérieur de soi que les personnes vont, d'une certaine manière, devoir domestiquer. Et c'est ce moment clé, particulièrement délicat, de la sortie d'une aventure médicalisée, pourrait-on dire. Mais je te laisse tout de suite la parole.
J'ai suivi... en l'occurrence, trois personnes qui ont passé plusieurs mois à Belle Idée. Donc, ça concerne, ce que vous dites, concerne essentiellement des gens qui ont passé beaucoup de temps à Belle Idée. Et puis, aujourd'hui, dans la psychiatrie d'aujourd'hui, il y a une préparation à la sortie, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est mise en place. C'est assez difficile de savoir quand est-ce que le processus s'engage, mais cette préparation peut durer des semaines, voire plus. L'idée étant d'exposer graduellement les résidents au long cours, je dirais, à ce qui les attend après l'hôpital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut, pour des personnes qui ont encore un domicile, ça veut dire rentrer chez soi 2 heures, ensuite passer une journée, ensuite un week-end avec une nuit. Donc, où le but étant qu'ils retrouvent leur marque. Il y a une préparation à la sortie parce que, en étant à l'hôpital, on est quand même loin du monde, j'ai envie de dire. Donc il faut recoller, renouer avec le fil de sa vie. Et ça, dans le film, ça se passe. Chacun, en fait, va le faire différemment. C'est un processus qui est complexe, périlleux.
Oui. Hein. Alors, évidemment. Déjà, moult questions vont arriver. On va y aller point par point. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'aurais envie de te poser des questions très triviales au début. Mais par exemple, comment est né ce projet? Comment t'es venue cette idée, tout simplement? Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et puis, ça, j'imagine que d'ores et déjà, au moment où naît ce projet, tu imagines immédiatement les difficultés inhérentes à celui-là, sachant qu'il s'agit d'aller interviewer des personnes dans leur intime, dans une situation de maladie, ou en tout cas, une situation délicate, problématique, dans un cadre psychiatrique où des professionnels sont également là, des professionnels de la santé, ce qui fait que j'imagine qu'avec la productrice, là, le boulot a dû être sans fin. Mais voilà, alors déjà, d'où t'es venue cette idée?
Oui, c'est une longue question. On, à l'époque, avec Cornelia, on avait l'envie d'entrer dans cet univers, de savoir ce qui se passait, comment la psychiatrie, donc, dans un hôpital, comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait avec les êtres qui sont là. Et puis, au départ, le projet était plus vaste, titanesque. Je pense que je suis pas sûr qu'on serait arrivé au bout. C'était de suivre quelqu'un de son admission jusqu'à sa sortie, voire au-delà. On a eu l'occasion de rencontrer passablement de médecins, de psychiatres, et puis petit à petit, il y a eu une série de glissements. C'est vrai qu'on ne se réveille pas un matin en se disant je vais faire un film sur la sortie d'hôpital. C'est spécifique. Petit à petit, notre regard s'est porté sur cet épilogue, cette dernière étape de l'hospitalisation. Et c'est moi, c'est le jour où en fait, j'ai entendu parler d'une préparation à la sortie, que je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. L'hôpital a changé, donc j'avais pas envie de faire un huis clos parce que je sais pas, on peut mentionner un certain nombre de films sur ce Titi Cut Follies de Weizmann, Urgence de Depardon, sont tous des huis clos. Oui. Il me semblait que l'hôpital avait changé et l'idée c'était de placer la caméra au seuil des unités pour voir comment justement se déroule cette confrontation à l'extérieur. L'hôpital avait changé, donc nous, on devait déplacer notre regard. C'est ce qui était important. Donc, c'est une série de réflexions et un déplacement du regard qui a mené à notre attention vers ce moment délicat de la sortie. Ouais.
Ça, c'est un travail que vous avez mené justement ensemble, tous les deux, Cornelia.
Oui, en fait, il y a même une préhistoire que Franck ne raconte pas, mais que moi, j'aime bien. En fait, l'approche qu'on a eue de la psychiatrie dès le départ était centrée sur une dynamique. Donc, pas de juste saisir les malades quand ils sont en crise pendant X semaines. Et en fait, une des idées qu'on avait au départ, c'était de nous concentrer sur le bus qui traverse le site de Belidé. Pour ceux qui ne le savent pas, Belidé n'est pas un bâtiment, c'est un site très verdoyant qui fait un peu parc, où il y a une multitude de bâtiments et une lune de bus qui traverse. Et une de nos idées, c'était de dire, on va tourner dans ce bus, on va rester dans ce bus qui, lui, est mobile à travers les unités de psychiatrie qui sont dans ce parc, et d'approcher les soignants, les familles qui viennent en visite, voir les malades qui reviennent de congé, en guillemets, avec cette idée de mobilité, de dynamisme. Bon, pour finir, on a complètement changé. Mais je trouve que ça reflète bien le rapport qu'on a à ce sujet, où il y a évolution, où il y a changement, où il y a une approche dynamique.
Et est-ce que le processus de sortie n'est-il pas en modèle réduit, peut-on en faire l'analogie avec tout le parcours, tout le psychiatrique d'une personne, dans le sens où au moment où on fait le bilan, on revient aussi sur ce qui nous y a mené. On le voit bien dans le film, parmi ces trois témoignages des personnes que vous allez présenter tout à l'heure, qu'il y a un cheminement qui s'opère. Et au moment de la sortie, eh bien, on revient sur toutes ces étapes-là. Et du coup, ça fait un résumé concentré. Et puis surtout, on va vers une solution, a priori. Et ça, j'imagine que pour vous, c'était important de pouvoir sortir de ce dispositif.
Ce qui est intéressant, c'est que la fin de l'hospitalisation renvoie souvent d'abord à l'admission, au début. Donc effectivement, il y a ce phénomène de... On fait le bilan de ce qui a été fait durant le séjour et ça va des fois plus loin. On fait le bilan de sa vie. J'en suis où ? Je rentre chez moi. Où est-ce que j'en suis dans ma vie ?
Absolument. Ouais,
et c'est ça qui est intéressant avec la sortie, c'est que ces questions-là apparaissent de manière lancinante à ce moment-là.
Comment votre choix s'est-il porté sur ces patients-là plutôt que sur ceux-là ?
Alors,
je dis ça également parce qu'à un moment donné, à la fin du film, au générique de fin, une personne est annoncée. J'en dirai pas plus, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Donc je te laisserai le...
Je répondrai à la question. Alors, les trois personnes qui sont présentes dans le film, donc il y a deux, je vais dire leurs prénoms, Nicole, Pierre et Nadège. Je les ai rencontrés, ils sont chacun dans une unité différente, donc les unités comptent une vingtaine de lits, elles sont assez réduites, c'est des pavillons, comme disait Cornelia, qui sont répartis sur le domaine de Belidé. Et puis, on a eu des discussions avec les équipes soignantes dans un premier temps, c'est tout un travail de mise en confiance, donc par rapport à toutes les personnes qu'on rencontrait à l'hôpital. On a discuté avec les équipes qui nous ont orientés vers certaines personnes ou qui nous conseillaient de discuter avec telle ou telle personne. Mais on voulait voir les patients nous-mêmes, sans le filtre forcément du personnel soignant. On a assisté à ce qui s'appelle des groupes pavillonnaires qui réunissent tous les patients plus des professionnels. C'est là où se discute tout ce qui se passe au jour le jour, les problèmes que pose la vie communautaire, parce que c'est une vie communautaire parfois très contraignante. Et là, ça nous permettait de repérer, ça nous a permis de repérer certains patients qui s'exprimaient ou pas durant ces groupes pavillonnaires. Et puis, dans le cas de Nadège, par exemple, qui est la plus jeune dans le film, qui a une trentaine d'années, c'est elle qui est venue à nous, suite à un groupe pavillonnaire, en disant, tiens, moi, elle hésitait beaucoup, j'aimerais témoigner, j'ai des choses à dire. Elle voulait le faire à visage couvert, d'ailleurs, ce à quoi elle a renoncé finalement. Donc, elle est courageuse, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si je parle de la quatrième personne.
De la personne qui est annoncée au générique de fin, ou pas, ou ce sera peut-être lors de rencontres.
Non, ça a été une autre rencontre et finalement, elle n'apparaît pas dans le film. C'est effectivement une jeune dame qui était présente dans le film et qui a renoncé à y apparaître, à y figurer.
D'accord, ok. Et puis, on a... Pardon, Cornelia.
Oui, en fait, en tout, si on prend... Parce qu'il y a le film et il y a l'exposition photo. Et donc, en tout, on a 5 personnages, hein, pas 3.
Oui.
Et je tiens à ce qu'on parle aussi des 2 qui sont dans les photos. Puisque dans le processus de réalisation du film, on a commencé par faire un travail photo. Donc, Franck a pris des photos... Et a fait des enregistrements d'entretiens de patients malades. Enfin, il a enregistré beaucoup de choses sur un mois et demi.
À peu près ouais. Un mois, oui.
Et puis, sur la base de ce... Enfin, ça nous a servi de repérage, en fait. On a préparé le film à travers le projet photo avec du texte. Donc, on a transcrit tout ce qui a été enregistré, les entretiens, mais aussi les ambiances, etc. Et là, 2 personnages ont été suivis. Et en fait, cette exposition photo, on peut la voir là actuellement en même temps que, enfin, dans le même endroit que, où elle projetait le film. Et ce qui est intéressant dans le travail photo, c'est qu'on voit que les retours sont multiples. Il n'y a pas forcément le retour à domicile. Le monsieur qui est le personnage de l'expo photo, eh ben, il ne peut pas retourner à domicile. Et donc, on voit sur les photos qu'il visite un EMS psy parce que voilà, il ne pourra plus vivre seul. Donc, Le retour n'est pas forcément un retour chez soi. Ça peut être encore une autre étape dans sa vie ou un autre chez soi à reconstruire, par exemple en institution.
Et puis, ça renvoie à autre chose, c'est que sortir de l'hôpital psychiatrique ne veut pas dire qu'on sort de la psychiatrie, de son domaine.
Tout à fait.
Lui, c'est une sortie relative, on va dire.
Oui, c'est vrai qu'à la fin, on voit, il y a la recommandation de dire vous allez être suivi par la suite encore. Il y a vraiment la recommandation médicale, presque l'injonction. Pourrait-on dire, on entre dans l'intimité de vie de personne. On entre également dans l'intimité d'un travail de professionnel, des contradictions que ces deux choses-là contiennent. Ça, j'imagine que c'est très délicat pour vous d'arriver à ça. Combien de temps a-t-il fallu pour d'abord rencontrer ces personnes-là et pour ensuite décider, voilà, maintenant on va pouvoir commencer à filmer. À quel moment, je veux dire, quand je veux dire combien de temps, c'est pas la durée finalement est relative, mais
c'est-à-dire que
comment est-ce qu'on sait que c'est maintenant qu'on peut y aller ?
Bon, il y a eu un travail à ce niveau-là qui n'a pas duré très longtemps. Ce n'était pas tellement ça le problème. Je prends le cas de Nicole, qui est une femme qui a environ 70 ans lorsqu'on commence à filmer. Elle a accepté assez vite d'être filmée. C'est une dame qui a des problèmes d'addiction. Et en fait, la difficulté, c'est les équipes, l'équipe qui s'occupe d'elle ne savait pas comment faire. Si vous voulez, les premiers entretiens qu'on a suivis, l'équipe ne voulait pas mentionner sa problématique. Le fait qu'elle soit alcoolique, pour dire les choses clairement. Alors, ça donnait des choses assez curieuses, jusqu'à ce que, en fait, Nicole, la personne concernée, dédouane l'équipe soignante et disent, écoutez, vous pouvez parler de ma situation, j'assume. Pour moi, c'est ça qui a été le plus compliqué. Alors ça, je filmais des entretiens, puis je me disais, mais c'est curieux, on va rien y comprendre, parce que justement, les questions fondamentales n'étaient pas abordées, en notre présence. Et je parlais de confiance, petit à petit, il y a eu... Ça se faisait en tournant, en fait. La mise en confiance s'est faite... en tournant, on tournait un entretien, il y avait des débriefings, entre guillemets, après avec l'équipe, avec la patiente elle-même, Nicole. Et petit à petit, ils ont adhéré à la démarche, si vous voulez.
Mmh. En tout cas, on voit qu'à un moment donné, le degré de proximité est tel que la caméra disparaît pour eux. On voit même à un moment donné, il me semble que c'était un infirmier à un moment donné qui dit « Non, mais moi, je trouve qu'effectivement, avec le catogan, un infirmier voilà, qui va un peu à l'encontre de la décision d'équipe, d'une certaine manière, en disant « Non, écoutez, moi, je trouve que là, il y a effectivement une contradiction dans les termes, pour le moins. » C'est-à-dire que ces gens-là ont pu vraiment, en toute liberté, se sentir tout à fait à l'aise, même dans les contradictions.
Mais ce n'était pas le cas au départ. C'est le problème avec cette équipe-là, c'est qu'ils étaient très divisés. Et c'était très Mais c'est intéressant, les divisions qu'il y avait au sein de l'équipe, c'est qu'une partie... En fait, la question qui se posait, c'est est-ce que cette femme, Nicole, prend les bonnes décisions pour elle-même ? Elle, elle veut rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut la laisser rentrer à la maison ? Elle veut participer au film. Est-ce qu'elle on doit la laisser s'exposer autant. C'était la même idée de... est-ce qu'elle fait... Elle prend les bonnes décisions pour elle-même. Alors, ça va assez loin, hein, parce que là, en l'occurrence, la psychiatrie est en mesure de priver quelqu'un de sa liberté pour son bien quand ils estiment qu'une personne se fait du mal, se fait du tort.
Ouais. Oui, tu disais la caméra disparaît. Je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. De mon point de vue, la caméra disparaît jamais. Mmh. Elle est toujours là, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est important pour nous dans chaque film, c'est qu'il y a toujours un moment donné où on voit un personnage qui parle à la caméra, enfin qui parle plutôt au réalisateur ou à la réalisatrice.
Comme un confident, tu voudrais dire que la caméra,
c'est une personne qui est là. D'accord. Avec sa caméra et qui ne disparaît jamais. Par contre, elle est intégrée, et c'est ça l'avantage des démarches longues, c'est pas d'arriver, de faire son reportage en 3 jours et de ressortir, hein. C'est de passer du temps avec, et que la caméra devient, oui, un œil qui voit qui enregistre du son. Le réalisateur est une personne qui est impliquée dans la vie momentanément de ces individus, mais elle ne disparaît jamais. Elle est acceptée, voire c'est une possibilité de dialogue, mais elle ne disparaît pas. Je trouve ça important parce que c'est qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, sur... comment rendre invisible la caméra, la pseudo-objectivité. Non, il y a une subjectivité de la façon de filmer et une façon de percevoir de la part du réalisateur qui est toujours là, et je trouve ça extrêmement important. Mmh.
La petite parenthèse, c'est le procès Eichmann où justement il y avait une analogie évidemment qui n'a rien à voir, on est bien d'accord, mais où effectivement il y avait cette volonté de dissimuler complètement les caméras pour capter un trait de visage, une expression. Bon, mais c'était effectivement... d'autres choses, c'est incomparable.
Oui, ben là, typiquement, par exemple, pour le film à Franck, comme beaucoup de films qu'on a fait, il y a beaucoup de caméras portées. Et ça indique aussi qu'il y a un être humain qui c'est pas une caméra sur pied qu'on a posée dans un coin pour enregistrer une forme de réalité. C'est une caméra avec un être humain qui cadre, qui porte, qui bouge un petit peu. Qui
est là. Mais vous avez quand même fait le choix d'une équipe légère.
Oui.
Quand même. Donc ça, c'est quand même un calcul qui est fait.
Ça, c'est très... Oui, il ne faut pas être à 25 dans ce genre d'institution. Ouais. C'est juste pas possible.
D'accord. Ouais. Et ça s'est fait alors de manière assez confortable avec le personnel hospitalier, les responsables de l'hôpital, les personnes qui ont dû vous donner les autorisations. Est-ce qu'elles ont elles-mêmes, soumis ces autorisations-là à un certain matériel, à une certaine... quantité de...
Non, on a annoncé dès le départ qu'on serait en équipe légère parce que ce n'est pas la première fois qu'on tourne dans les institutions où à la fois du point de vue des lieux, hein, par exemple les salles d'entretien, on ne peut pas y être 25 non plus, et du fait qu'il faut être un petit peu délicat avec l'environnement dans lequel on est, évidemment on est en équipe légère. Ce qui permet d'ailleurs aussi une interconnaissance de toute la petite équipe. Je pense, l'autre jour, c'était la première jeudi, il y a une personne, un des protagonistes du film qui était là, elle va vers le caméraman, vers l'ingénieur du son. Il y a des relations qui se tissent avec tous les membres de l'équipe, ce que je trouve être assez important. Pour revenir maintenant sur les institutions, c'est des choses qui... Ça nous est arrivé de qu'on nous dit « Ah, vous êtes allé tourner en psychiatrie, comment vous avez fait ?» Les institutions, si on se présente de façon respectueuse, sont assez intéressées au regard qu'on peut avoir sur elles, et ce n'est pas si difficile d'y pénétrer.
Oui, ça c'est intéressant. On a quand même une infirmière, je crois, à un moment donné, qui dit « Attention, moi je ne veux pas être filmée. »
Parce que ça arrivait. Oui. Je ne voulais pas complètement le gommer, cet aspect-là.
Ouais, tout à fait. Je vous propose que l'on parle également ensuite plus trivialement de ce qui s'est passé, puisque vous avez d'ores et déjà verni le film. Alors j'aimerais bien avoir votre opinion sur la réaction que cela a suscité dans les lieux où vous l'avez projeté, qui est un lieu également un petit peu singulier, pourrait-on dire. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, j'aurai un petit extrait du film de 3 minutes que j'ai détaché comme ça. Alors ça se passe au début du film, c'est dans les 10 premières minutes, où justement on fait parler très brièvement mais ces 3 personnages que par la suite on, que l'on suit tout au long du film. Igor, si t'es d'accord, on y va avec le petit podcast, c'est parti.
Il y a aussi une partie de ma lettre qui est associée à ce lieu, donc je vais essayer d'investir le lieu, de m'y sentir bien et... Finalement, c'est un peu l'objectif. Hein. C'est comme ma belle idée. Je disais que ma chambre, c'est ma bulle. C'est un lieu dans lequel je me sens protégée. Mon appartement, l'objectif, c'est que ce soit la même chose. Hein. Un lieu dans lequel je me sens bien, qui m'éloigne de ce monde de fous qui est à l'extérieur.
J'ai des mois ici. Surtout que vraiment, il y a une pression. Je ne sais pas pourquoi je suis pressuré.
Ah, parce que ça pressure le...
Le quoi?
Bah, parce que votre retour, il est proche.
Bah, oui, mais pourquoi est-ce qu'on me pressure comme ça vraiment tout? Moi, j'aimerais mieux être au calme, justement.
Oui, c'est pas très calme.
Hein?
Mais vous essayez de penser à ça, hein?
J'aurais voulu aller à l'université pour étudier la physique et la métaphysique, penser donc. Et mes parents n'ont pas voulu, puis après j'ai commencé à être un peu fou. Alors, ils m'ont conduit chez un psychiatre. À 29 ans, je me suis marié et puis j'ai été, je crois, 10 ans avec ma femme. Et puis, pour finir, elle m'a quitté. Je suis retourné chez ma mère, qui était vieille. Et puis, j'ai vécu avec elle plusieurs années. Et à un moment donné, elle a fait... une hémorragie cérébrale. Et puis, ça l'a rendue aphasique. Et j'ai été comme ça avec elle pendant 7 ans. Je pouvais m'occuper d'elle un peu. Et puis, pendant toute cette période-là, j'ai pas voulu fuir. J'étais là et puis ça allait bien, malgré cette grave maladie de ma mère. Et il y a d'autres cas où j'étais seul et à un moment donné, ça va.
Libre Radio, la radio qui n'en finit pas. www.libradio.org.
Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin.
Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.
Voilà, donc effectivement, on entend bien, on comprend la complexité hein, de ces aventures de vie, hein, ce qui peut nous conduire à tout moment finalement dans ces situations délicates-là. Et après, effectivement, là, on a l'impression quand on entend, c'est Nicole, je crois, au début qui en parle et qui dit, plus je m'en approche, plus je m'en éloigne, plus je m'approche de la sortie, plus j'aurais presque envie de m'en éloigner parce que j'ai peur de cette espèce d'ailleurs incontrôlé, incontrôlable. Ça, c'est un truc que vous avez vraiment perçu tout au long de vos prises de vue, de l'accompagnement de ces personnes.
Oui, c'est particulièrement évident chez les deux personnages féminins. Il y a effectivement une accoutumance au lieu, je dirais. On se sent protégé, elle dit d'ailleurs, Nadège, on se sent protégé de ce monde de fous qu'il y a dehors.
Voilà, ça c'est assez...
Et effectivement, une des problématiques de la sortie, c'est ça, c'est de se confronter à nouveau à son existence, à son lieu d'existence, qui est souvent associé d'ailleurs au mal-être qui a pu mener à la détresse. Et ça fait partie d'une sorte de désaccoutumant, j'ai envie de dire. Ouais. Avec le risque, pour donc c'est tous des gens qui ont passé plusieurs mois, hein, donc... C'est le problème justement de comment dire ça, vous disiez ils ont peur de la sortie, effectivement, mais en même temps ils veulent sortir,
c'est ça,
si vous voulez. Donc on est dans une tension interne qui est très forte et qui est aussi ressentie par le personnel soignant.
Et alors est-ce qu'il y a un moment où vous avez éteint la caméra? À un moment, on se dit, dans la confrontation avec le professionnel de santé, parce qu'on voit que des fois, c'est quand même pas évident, ou le moment où on est dans une crise à l'intérieur de soi, où on voit effectivement Nadège, à un moment de lui-même, dire la perme, elle utilise le mot la perme quand elle veut demander de sortir. La perme, c'est un mot quand même assez connoté. À ces moments de crise, est-ce qu'on a des fois la tentation d'arrêter de filmer? Ou est-ce qu'on dit, on filme tout, puis après, on verra au montage? Et évidemment, la deuxième partie de la question, le deuxième volet, c'est, est-ce qu'au montage... voilà, il y a tant de rush et puis là-dedans il a fallu sélectionner d'une manière assez... Était-ce un crève-cœur de le faire?
Moi, il n'y a pas de moment où... Il n'y a pas de moment où on a interrompu où on a éteint la caméra. En tout cas, dans mon souvenir, pas. Par contre, on a dû interrompre le tournage à un moment donné. Mais ça, c'était une volonté de l'institution. C'était par rapport à Nicole où à un moment donné, l'équipe nous a dit, écoutez, nous, on n'assume plus cette exposition-là, ouais, devant la caméra, autant l'équipe qu'elle. Mais je ne me suis jamais senti, en sachant qu'il y a la possibilité du montage, mais je ne me suis pas senti dans des situations où j'avais l'impression d'être un voyeur ou être indécent ou être indigne d'eux, si vous voulez. À vous parler du nombre d'heures, j'avais fait le compte à l'époque, je ne me rappelle plus, mais c'est genre 80-90 heures de tournage. Ouais. Donc effectivement, il y a un immense travail de synthèse pour arriver à 1h25 de film, où chaque coupe est un choix, parfois cornélien, mais oui.
Et effectivement, vous l'avez fait là aussi. Bon. Vous...
Excuse-moi. Cornélia.
C'est dans l'implicite là-dedans. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'on fait à deux. C'est quelque chose que... Comment justement on en arrive à choisir ça plutôt que ça dans les scènes, dans les moments de...
C'est un long processus. Moi, j'ai commencé seul, en l'occurrence, le montage. Et puis, à un moment donné, c'est comme quand vous jouez aux échecs contre vous-même. Quoi. C'était plus possible. Je ne voyais plus rien. Je n'entendais plus rien. Et bon, on l'avait prévu, mais en l'occurrence, c'est arrivé plus vite que prévu. J'ai impliqué Elisabeth Welchli, qui est une monteuse que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Et puis, j'ai sollicité Cornélia et d'autres gens à différentes étapes du montage. Mais il y a eu des moments de découragement
c'est vrai.
qu'il faut surmonter. Et puis après, ça fait partie, le doute fait partie du montage.
D'accord. En tout cas, clairement, il y a une pudeur dans le tournage. Ça se ressent. Mmh. Il y a une délicatesse. On voit qu'il y a vraiment l'idée de passer le message, de relayer le message, d'être témoin de ce qui se passe là et de ne pas empiéter, d'être toujours un petit peu dans la délicatesse comme ça. Et ça se ressent tout au long du film. Allons-y, les projections ont déjà eu lieu, le vernissage, l'avant-première s'est faite il y a de cela deux jours, jeudi.
Oui.
Jeudi 24 février et c'était à l'HETS.
Voilà, à la Haute École de Travail Social à Genève. Donc on a choisi d'aller là-bas parce qu'on peut, on peut montrer l'exposition photo dans le hall et puis le film est projeté dans l'auditoire. Les horaires sont un peu variables, donc on peut aller les chercher sur le site internet d'Imagia Diffusion. C'est imagiadif en un mot.ch. Et puis ensuite, on cherche dans les films Le Seuil. Et puis il y a les horaires. On a une page Facebook aussi qui s'appelle Le Seuil. Et évidemment, au cinéma à Lausanne,
voilà,
où il est sorti mercredi. Ce soir, il y a un débat, projection avec débat. Donc Franck va se précipiter dans le train tout à l'heure, vite manger un pâté vaudois et ensuite faire le débat.
Y a-t-il des lieux dans lesquels vous auriez particulièrement envie de projeter ?
Alors, on a été, justement, suite à la première, j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables qui travaillent, notamment la responsable infirmière qui travaille à Belle Idée, et qui nous a proposé de projeter le film là-bas, ce qui était une idée qui était déjà là tout au début, mais curieusement, plus pour le personnel, pour les équipes soignantes, pour qu'elles puissent nourrir une réflexion sur leur manière d'intervenir, de parler, de quels mots on utilise, parce que les mots sont quand même très importants dans tous ces échanges avec les patients. Ça, proposition intéressante, je pense qu'on va...
Le film a été financé, il est en coproduction d'ailleurs avec la télévision suisse romande, je tiens à préciser, parce qu'ils ont été très soutenants dans leur accompagnement, y compris les discussions sur le contenu. Donc nous, on a des salaires par ailleurs, on ne vit pas de ça. Donc le film n'a pas besoin d'argent maintenant par le biais des entrées. Alors s'il y en a un petit peu, ça nous aide. C'est pour ça qu'il est à prix libre. Il y a une petite caisse à la sortie et les gens mettent ce qu'ils veulent. Mais si on nous propose des débats, des projections partout en Suisse romande, on viendra avec plaisir parce qu'on a vraiment envie maintenant d'essayer d'autres circuits que les circuits habituels, distributeurs, une semaine en salle et ciao, salut. Donc on est plus sur le mode tournée, on va dire, et donc on est preneur de toutes les propositions. On a un site web où vous pouvez nous écrire à cet endroit-là si vous avez des propositions à nous faire.
L'appel est lancé en tout cas. Est-ce que Nadège, Nicole et Pierre ont vu le film? Et si c'est le cas, comment est-ce que ces personnes ont réagi à la vision du film?
Avec émotion, souvent. ils ont vu le film, souvent avec leur entourage. Je pense que c'est... je ne sais pas comment décrire leur réaction, mais c'est très, 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 très émotionnel, forcément. Mmh. Et puis, le sentiment d'avoir... d'être des passeurs d'une expérience au sein de l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils... C'est pas un regard narcissique sur leur personne, c'est de se dire c'est important d'en parler, ça peut être utile à d'autres, ça peut nourrir la réflexion pour d'autres, et, y compris au sein des équipes soignantes. Hein.
C'est complètement. Ça me rappelle un peu, pardon, Cornelia.
Oui, je voulais peut-être relater la réaction de Nadège jeudi, qui était dans la salle, et à l'issue du film, il y a eu un débat, et puis spontanément, elle s'est levée, elle s'est présentée. Elle a dit quelque chose qui nous paraît assez important aussi maintenant que le film est fait et vu, c'est qu'elle disait, voilà, moi je suis à visage découvert dans le film et je me présente ce soir à vous en chair et en os, parce qu'il y a un regard à changer de la société sur les gens qui ont eu des épisodes d'hospitalisation. Et elle disait, il y a des pathologies qui sont plus stigmatisées ou stigmatisantes que d'autres. Elle disait, voilà, le burn-out, c'est trop de travail, ça passe encore. On n'est pas trop stigmatisé. Par contre, la dépression a une image très négative. Et elle disait, voilà, le fait de montrer ce film et d'assumer d'être dedans, c'est aussi une façon de dire, voilà, de se débarrasser ou d'essayer de contrer ce stigmate de la personne qui a eu un épisode hospitalier.
Et d'en arriver à mentir lors d'un entretien d'embauche sur sa situation.
On voit que ça la touche au moment où elle est recroquevillée. Et elle n'est pas bien avec ça, hein, effectivement. Oui, parce que moi, je trouve qu'il y a une portée pédagogique, pour le moins thérapeutique, même à ce film. Moi, ça me rappelle les films Medvedkin, où justement, on filmait l'ouvrier moscovite soviétique dans sa condition d'ouvrier pour lui montrer de manière distanciée ce qu'il en était, parce qu'effectivement, des fois, le nez dans le guidon, eh bien, on ne s'aperçoit pas
de mais
tout.
En fait, les trois personnages, moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant aussi, on sent qu'ils ont passé tellement de temps à parler à des psys, à raconter leur histoire. Ils ont une réflexion sur leur propre situation qui est extraordinaire. Donc on sort un petit peu du côté, voilà, ça c'est la victime de dépression ou telle pathologie. Ils ont un discours dessus et un regard sur eux-mêmes qui est très très fort.
Absolument. Alors, quelles ont été les réactions? Là, on a parlé des réactions des trois protagonistes du film, mais les réactions à l'HETS, parce que c'est effectivement un lieu tout de même singulier, qui s'approche quand même pas mal de ce que vous avez du postulat du film. Comment les étudiantes et les étudiants ont-ils réagi?
Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants.
Ah, c'était plutôt des profs.
Très hétérogène, en fait.
En fait, ils nous ont prêté le lieu, mais on n'est pas en collaboration avec... On n'a malheureusement pas eu le temps d'organiser des projections spécifiques. Donc, évidemment, comme tout est annoncé dans leur propre rôle, il y a des étudiants qui viennent voir ou qui vont venir voir,
mais
ou des
profs.
Ce n'est
pas destiné spécifiquement
à eux.
Oui, tout à fait. Effectivement, fait un pas de côté. Tout à fait. Mais alors, voilà. Alors, le public, en général, c'était un public vraiment tout public, finalement.
Oui, alors à la première, il y a eu essentiellement un petit peu notre cercle social, notre entourage, l'entourage des protagonistes, un petit peu des gens du milieu du cinéma. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien convaincre les gens de trouver le chemin jusqu'à le bâtiment de la HETS. Donc vraiment les gens intéressés, tout public. C'est un lieu pas habituel, mais c'est très accueillant et c'est très bien.
Faut quand même dire que ce n'est pas un film pour spécialistes. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en psychiatrie. On est dans la matière, une matière existentielle, je dirais, dans l'intimité des gens. Donc, c'est vraiment tout le monde peut le voir.
Je confirme, puisque moi-même, je n'ai rien à voir avec ce milieu-là. Et effectivement, on le voit effectivement comme un peu un journal intime, comme un peu un témoignage. Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce film qui permettent de s'en approcher, ça certainement. Alors justement, les personnes vont pouvoir s'en approcher d'ores et déjà au travers de l'HETS. Mais y a-t-il déjà des projections de prévues plus loin que cela?
Non, alors à part, donc y a maintenant, là, il est au cinéma. Ensuite, je pense qu'il va aller à Neuchâtel. On espère une projection à la Chaux-de-Fonds aussi. Donc là aussi, je remercie Laurent Toplitch qui nous soutient fort, fort, fort. Et j'encourage les gens à aller au cinéma, au cinéma et pas seulement à la HETS à Genève. Mais voilà, on n'a pas encore de suite prévu, à part effectivement ces quelques villes en Suisse romande qui sont encore ouvertes.
Ça veut dire que toute proposition serait les bienvenues?
Toute proposition est la bienvenue.
Absolument.
D'accord. On va rappeler peut-être justement de quelle manière est-ce que l'on peut vous contacter si on souhaite vous proposer de venir projeter.
Alors, on a un site, deux en fait. C'est Imagiadif, donc Imagiadiff en un mot, slash le seuil.
Et puis, non, t'as oublié le .ch quelque part. Mais allez sur imagiadiff.ch et vous trouvez tout de suite.
Nous, on mettra également le lien de toute façon en dessous du podcast de cet entretien. Et puis alors, la présence du réalisateur est possible lorsque le film sera projeté ici, c'est-à-dire que les personnes qui vont vous solliciter...
Moi, ils peuvent me solliciter avec le film.
Très bien. C'est ça que je voulais savoir, c'est un package, un combo.
Voilà, donc quand le réalisateur ne peut pas, c'est la productrice qui y va, justement.
Très bien.
Ou les deux.
Toutes les formules sont envisageables.
Vous nous invitez à manger, on vient volontiers dans toute la Suisse romande, sans souci.
On arrive doucement à la fin de cet entretien, on va devoir rendre l'antenne. J'aimerais savoir, vous, dans votre cheminement personnel, qu'est-ce que vous en retirez? Y a-t-il un avant et un après ce film-là?
Oui.
Et de quelle manière est-ce que de quelle manière est-ce qu'on évolue au travers justement de ce type de rencontre?
Si vous voulez, ça a fait tomber tellement d'images que j'avais, ou de stéréotypes, pour utiliser un mot. Et l'idée étant de rendre justice à la complexité de toute cette histoire, de tout ce processus de sortie ou la vie en hôpital psychiatrique de manière générale, c'est vrai que j'ai appris, parce que moi j'ai une approche exploratoire, j'arrive pas avec mes certitudes, je suis là pour apprendre. Et à ce niveau-là, ça a été humainement et par rapport à la psychiatrie et son fonctionnement, et au-delà de la psychiatrie, d'ailleurs, je dirais presque de manière existentielle, il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé. Ouais.
Je dirais que ce n'est pas ce film-là. Enfin, ce film-là est une étape en plus. On a fait d'autres films, sur un centre d'hébergement d'urgence. Il y avait des problèmes de polytoxicomanie et psychiatrique aussi. Donc, j'avais déjà, par le biais de la production, approché un peu cet univers-là. Donc voilà, tous les documentaires que j'ai produits m'ont changé quelque chose, celui-là évidemment aussi, mais plutôt dans une logique de cheminement.
D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Cornelia Hummel et Frank Preisberg, respectivement productrice et réalisateur du film Le Seuil, sortir d'une unité psychiatrique, donc visible jusqu'à quand, à la Chetesse ?
Alors, à la Chetesse jusqu'au 3 mars, et il y a un débat, le 3 mars, le soir, après le film, il y a un débat avec des intervenants professionnels de l'univers de la psychiatrie.
Voilà, et pour les personnes, puisque Fréquence Banane est beaucoup écoutée à Lausanne, oui. Alors, ce soir au cinéma.
Alors, ce soir au cinéma, en tout cas jusqu'à mercredi, et s'il y a du monde, Laurent prolongera. Donc allez-y.
Alors nous, on encourage, on invite toutes les personnes, en tout cas de Fréquence Banane Lausanne, à s'y rendre ce soir. Et puis surtout à appuyer le film. Et pourquoi pas, peut-être qu'à là-bas, ils vous demanderont aussi un entretien, voilà, ou un petit truc.
Et si vous avez aimé, vous partagez sur Facebook, machin, tout ça.
Ouais, voilà. Super. Bah, je vous remercie beaucoup, en tout cas beaucoup. Et puis bah, une prochaine fois, et bonne chance pour le film. Bonne continuation.
Merci.
Merci.
Au revoir. Alors, eh bien, nous, on arrive doucement au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à remercier toutes les personnes de l'équipe de Libre Radio, de l'équipe de Fréquence Banane. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans cet horaire un petit peu bizarre en ce moment. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, nous ferons l'émission plutôt le soir, puisque c'est art et dans le cadre de Art et Féminisme, un événement où l'on appelle les gens à contribuer sur Wikipédia, que Libre Radio va évidemment relayer, et même un peu plus que ça, puisqu'on va participer des sources justement à mettre sur Wikipédia. Donc Art et Féminisme, le 4 et le 5 mars, ici à Genève, au Pavillon Bleu, avec un prélude d'une soirée non mixte à l'estime, dans le quartier des Grottes également. Tout cela se trouve sur la page internet Les 100 pages. Il suffit de mettre ça sur Wikipédia. Donc voilà, merci beaucoup Igor à la technique. Merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, toutes les informations, les podcasts, etc. se trouvent, ainsi que la newsletter, sur le site www.libradio.org. On se laisse avec une dernière petite chanson. C'est Pleasure Symbols Ultra Violence. Ciao.